n'est pas étranger hein, au pays et à la culture qui nous environne. Et c'est vrai que, en parlant, tout de suite, j'ai pensé à ce collectif qui s'appelle Art and Language. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, hein? Est-ce que vous le connaissez? Ah, oui? Oui? Ah! Parce que souvent, en France, ils sont méconnus. Hein? Et c'est une approche bon, très, très conceptuelle, mais pourtant, ce sont des peintres. Ça marque vraiment, ce plan d'approche très différent. Donc, moi, je me sens très proche d'Art and Language. Et Alexandre, tu mentionnais Nelson Goodman aussi.
Oui, c'est-à-dire, c'était moins sur la pratique artistique que sur ces questions de, disons, de traduction. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu opposais, enfin, c'est pas que tu opposais, mais c'est que Feldman ou Cage lui-même s'opposait à une musique européenne.
Boulez.
Par rapport à Boulez. Et c'est vrai que dans cette question des traductions, des transpositions, il y a historiquement une histoire assez idéaliste ou mystique, qui passe d'ailleurs par le terme de correspondance, alors que on a toute une école nord-américaine, alors c'est vrai, très représentée par l'art conceptuel, et en particulier par les travaux de Nelson Goodman, ceux qui sont intéressés par ces questions dans son livre « Langage de l'art », où vraiment il aborde les relations entre les arts de manière très pragmatique, logique, vraiment sur des principes de logique qui sont complètement dénués d'autres considérations que le langage. Voilà.
Rien de sentimental.
Voilà. Donc c'est vrai que c'est peut-être, c'est à prendre en considération aussi, mm-hmm. c'est cette conception de la traduction dans une perspective logique qui vient de Wittgenstein et qui vient jusqu'à Goodman par rapport à une conception qui serait celle qu'on connaît très bien parce qu'elle est héritée d'un 19e siècle symboliste, des corps d'assurance,
Et j'ajouterais quelque chose, une autre dimension. Il ne faut quand même pas oublier que le Québec est une petite nation francophone dans un océan anglophone. Cette dimension-là aussi est importante culturellement. C'est-à-dire que nous sommes vraiment toute notre histoire est faite de ça, du tiraillement entre l'Amérique et l'Europe. Quand on est à l'école secondaire ou en tout cas au collège, on étudie les textes, la littérature française. Victor Hugo, je ne sais pas. Vous imaginez, là, on est en Amérique. Je veux dire, c'est pas notre réalité. Là. Je veux dire, Notre-Dame de Paris, quand on est né, on est tout petit, on n'a jamais vu, peut-être en film, mais ça ne fait pas partie de notre réalité. Par contre, ça fait partie de notre culture. Et en même temps, on va Moby Dick, la littérature américaine. Moby Dick, c'est un roman incontournable qu'il faut absolument lire dans sa vie. Mais je veux dire, c'est notre... Puis l'anglais, je veux dire, le français, l'anglais, la culture américaine, la culture européenne. Et je crois que ça aussi, ça caractérise notre... Bon, sans faire de généralité, il faut faire attention, hein. La nation française, je veux dire, ça reste quand même quelque chose qui crée une relation à la société, donc une relation à l'art. Et je crois que oui, les approches conceptuelles sont très fortes, en tout cas au Canada, il y a eu, à la période conceptuelle américaine, il y avait une approche conceptuelle aussi canadienne, mais qui était proche de l'Amérique. Mais après, se sont développés, puis au Québec, un autre type d'approche dans cette même filière-là, mais complètement différente. Et aujourd'hui, il y a une réaffirmation de ces approches conceptuelles, mais un peu tiraillées. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé votre question, parce que je me sentais un peu tiraillé, parce que ce n'est pas une approche conceptuelle pure. Bon, les titres réfèrent à ça, hein, la façon de nommer, de titrer, ça réfère à cette approche conceptuelle, ou le processus qui conduit à ça. Hein? Mais en même temps, c'est un petit peu lyrique. C'est un petit peu romantique, on pourrait dire. Ou, ah, donc, il y a quand même quelque chose qui est... Il y a un attachement à ça. Il y a du métaphorique. Et ça, c'est propre. Regardez ce qui se fait au Québec et vous allez voir que toute la pratique artistique, et pas juste artistique, musicale, tout ça, est parcourue par cette contradiction, cette tension qu'il y a entre l'Amérique et l'Europe. Ça va? Pas de questions? Ça va? Certains d'entre vous sont déjà venus au Québec? Oui? Oui? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué? Ah, ben c'est déjà beau, c'est beaucoup, ouais.
J'ai senti ce croisement de culture. On en a encore parlé hier. Mais oui, ce croisement de culture, même au niveau de la linguistique aussi.
Oui, oui.
Et oui, effectivement, c'est.
C'est pas déchirant, hein? Peut-être je l'ai exprimé d'une façon, une tension, mais elle n'est pas déchirante, elle est plutôt quelque chose de très vivifiant, je veux dire. Bon, la langue française a évolué d'une façon particulière dans ce petit coin du monde et produit un type de langue, une langue, ben, un accent, mais aussi une langue. Bon, maintenant, là, nous sommes dans la... revendiquer un français, hein, parce que quand on vient ici en France, on est surpris par les parkings, shopping, bon, l'utilisation beaucoup de mots anglais. Chez nous, vous vous faites reprendre, hein, si vous utilisez ces mots-là, on va vous reprendre. Mais on le voit vraiment parce que c'est une période très décisive, hein, sur la sauvegarde de cette langue, parce que l'anglais est prioritaire, majoritaire, il l'est internationalement, là. Il est, je dirais, d'une manière impérialiste, hein, quand même. La langue a un rôle aussi, hein, de nivellement. Hein. Et donc, il y a vraiment une volonté, vouloir d'affirmer le français. Donc, si vous venez au Québec et on vous reprend sur le shopping, parking, etc., etc., voyez dans ce geste-là comme une façon pour nous de revendiquer le français, parce que, bon, shopping, parking, ici en France, ça n'a pas beaucoup... Je ne pense pas que la France est en danger de perdre cette langue-là, parce que, bon, je pense que la France va toujours être française, mais pour un petit îlot comme ça, c'est plus dangereux. Bon, voilà, j'ai fait mon petit laïus politique. Arcphono. Je pense qu'avant de parler du colloque, ce serait important que je vous dise l'origine du colloque. J'ai mis sur pied un groupe de recherche qui s'appelle Arcphono pour archives phonographiques. Et ce groupe de recherche-là s'est passionné pour une chose un peu particulière. En tout cas, je n'ai pas vu beaucoup d'autres groupes, en tout cas, s'intéresser à ça. Aux ambiances, ça va, de lieux intérieur. Bon, les lieux sont toujours intérieurs, mais en tout cas, mais de lieux intérieurs. Si je dis, on va faire l'enregistrement de l'ambiance d'un restaurant à Paris, puis ensuite on va aller faire l'enregistrement d'un restaurant à Montréal ou à New York ou peu importe le pays, tout de suite dans votre tête, vous allez dire, ben oui, on va reconnaître. On va reconnaître tout de suite, pas juste par la langue. Hein? Bon, c'est bruyant les restaurants français. Mais il y a une ambiance qui appartient à ce type de lieu-là. Et là, ce qu'on a fait, on a fait deux DVD, je ne sais plus, il y a 40, 50 lieux qu'on a archivés. Le premier lieu qu'on a archivé, c'était la bibliothèque centrale de la ville de Montréal, qui allait fermer. Notre idée était aussi d'enregistrer des lieux qui allaient disparaître, qui allaient fermer. La bibliothèque centrale de la ville de Montréal a fermé pour déménager dans une grande bibliothèque, la Bibliothèque nationale. Tout de suite, on peut se dire, mais enregistrer une bibliothèque, ben ils sont fous. La bibliothèque, c'est supposé être silencieux. Non, non, non. Et ce qui était fantastique quand on a fait l'enregistrement des différentes salles, donc on a archivé la bibliothèque, quand on est retourné à la bibliothèque, la bibliothèque allait fermer, on a remis des DVD aux personnes. Ils étaient tellement touchés, ils étaient émus presque aux larmes, parce qu'eux étaient conscients que le lieu était bruyant. Et ça, c'était une espèce de portrait du lieu. Souvent, quand on archive, on va photographier, mais c'est rare qu'on va archiver. Oui, on va archiver ce plan sonore, mais c'est plus rare pour des lieux intérieurs. Et donc, dans ce lieu-là, la bibliothèque, je vous dis, c'était vraiment... les gens étaient presque aux larmes d'avoir ça comme document, souvenir. Et eux, quand ils écoutent, ils savent exactement qu'est-ce que ça veut dire. Donc, voilà, ça, c'était notre premier menu. Après, on a fait... Il faut dire que à un moment donné, on a arrêté de demander de s'annoncer parce que les lieux qu'on archivait fermaient après notre passage. Les églises, vous savez, bon, Montréal, l'histoire du Québec, encore là, je reviens à l'histoire du Québec, le catholicisme était important. Donc, il y avait... Montréal était réputé pour la ville aux 1000 clochers. Il y a une église presque à tous les coins de rue, presque, ou en tout cas dans chaque petit quartier avait une église. Et ces églises-là sont des... sur plan acoustique, hein, on sait que comment c'est des lieux magnifiques, mais aussi ont des trésors, les fameux orgues Casavant, qui sont des orgues magnifiques. Deux des églises, on est allé archiver pour la question des orgues, mais aussi la résonance de ces orgues-là dans les lieux. Et les deux églises ont fermé. Ça, c'était entre autres. Puis il y a plein de lieux comme ça qu'on a archivés qui faisaient qu'on n'osait plus trop s'annoncer parce qu'il y avait eu même un article dans les journaux, tout ça. Alors, on avait une mauvaise réputation des personnes qui, après notre passage, fermaient les lieux. Mais on a aussi enregistré des lieux un peu insolites, comme je dirais, comme la salle de rédaction d'un quotidien absolument important qui s'appelle Le Devoir. Vous voyez? Alors, c'est infini, hein? C'est infini. Puis quand on s'y arrête, ce sont vraiment des lieux qui sont caractéristiques, hein, je dirais, d'un paysage sonore, d'un paysage d'une ville, d'un pays. Voilà.
Écologie.
Exact.
En fait, ce sont ces paysages sonores donc, réalisés par ce musicologue, compositeur canadien, qui a donc travaillé avec une vocation de préservation, mais plus dans un principe écologique, de nature.
Exact. Il le fait beaucoup pour des paysages, hein, beaucoup pour des lieux extérieurs. Là, je reviens un peu sur ces termes-là. Il a même fondé un groupe très militant. Je les ai rencontrés, j'ai dit, oh là là, nous sommes... Mais encore, c'est la différence anglophone-francophone. Mais militant, vraiment, il y a une volonté d'enregistrer parce que les sons disparaissent. C'est vrai, si on pense à la locomotive, hein, à différentes périodes de son histoire, n'a pas le même... Le TGV, un son qui n'est pas la locomotive à vapeur, mais bon, c'est un peu des exemples un peu extrêmes. Mais ce groupe est à l'affût, ils sont en train, ils ont des banques incroyables de données de lieux, surtout extérieurs, parce que tout va disparaître, tout est en train de disparaître, donc il faut archiver. Bon, c'est une approche plus militante, la nôtre est plus... européenne, plus poétique peut-être. Donc, on a commencé à archiver des lieux dans la région montréalaise. Puis bon, on devait s'étendre au Québec, on devait aller aussi plus loin, mais bon, c'est toujours la question des sous. On a arrêté à un moment donné parce qu'on n'avait plus de sous. Mais les documents, je les laisse ici, seront à la bibliothèque. Vous pourriez les consulter. Vous pouvez utiliser... Ces banques sonores-là aussi sont libres de droit, je le souligne, dans la mesure où vous mentionnez Arc Phono.
Vous utilisez une méthodologie. déjà fait un exercice un peu similaire d'enregistrer des intérieurs et on se rendait compte que on pouvait rendre très bruyant un intérieur qui n'était pas du tout et inversement. Est-ce que vous avez une méthodologie hyper stricte ou c'est un peu
Puis vous savez, tout ça est lié à la technologie. Je me souviens quand on a commencé à enregistrer, pourtant ça fait pas si longtemps, hein, mais c'est toujours ça, la technologie évolue. Les derniers enregistrements qu'on a fait, on utilisait un micro canon qu'on plaçait au centre. Évidemment, on visite. Bon, je vais répondre de façon méthodologique. On visite le lieu d'abord. Souvent, il faut avoir des autorisations. Des fois, c'est des lieux publics. Les gares, gare d'autobus, gare de train, tout lieu public. Donc, on visite le lieu, on a les autorisations. Ensuite, on va pas juste visiter le lieu, mais on va écouter le lieu. Hein? C'est-à-dire qu'il faut trouver le point d'écoute le mieux pour pouvoir avoir cette ambiance spécifique. Je pense à une gare d'autobus chez nous. C'est important parce que bon, il y a les appels, hein, qui sont, il y a les gens qui passent et il y a les gens qui travaillent, les chauffeurs d'autobus qui parlent très fort. donc on avait repéré ça, hein, puis un peu ce modèle là, de Maurice Schaeffer. Là. Et donc bon voilà, oh, ici, voilà, on se place ici. Des fois, il y avait des lieux, un endroit très bien, mais on ne pouvait pas parce qu'ils nous disaient non, vous n'avez pas le droit de vous placer là, etc., etc., pour des raisons de sécurité. Donc, on se déplace un tout petit peu, mais quand même, il y avait cette recherche du point d'écoute qui était le plus représentatif du lieu. Puis après, bon, on utilisait ce type de micro dans les premières prises de son. C'était bon. Il y a une distance, on avait même fait des calculs pour trouver exactement la bonne distance, parce qu'il n'y a pas tant de littérature, hein. Il y a les données techniques pour l'enregistrement d'ambiance intérieure, il n'y en a pratiquement pas de données techniques. Puis les preneurs de son, ben, on rentre dans un terrain, mais rapidement de dire, les preneurs de son, ce sont des personnages assez particuliers. Hein? Ils sont très solitaires, ils ne disent pas beaucoup leurs trucs, ils sont avares de leurs informations, mais bon, on a réussi un peu à avoir quelques informations. Bon, puis on avait des preneurs de son qui on avait un peu trouvé ce système micro, prise de son stéréophonique, tout ça. Mais à la toute fin, mais les derniers enregistrements, on le faisait avec un micro canon. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ah oui? Tout ça a conduit à... Bon, on a des archives, tout ça. On a conduit à organiser un colloque qu'on a appelé Archives sonores et voix radio. Un colloque un peu particulier parce que, bon, j'avais un peu marre des... Bon, les colloques... Même là aussi, vous voyez, ma position ici, j'aime pas trop cette position là, de parler beaucoup, puis vous écoutez. Ça a un côté très... Ça implique de votre part un côté passif, passivité, puis bon. Mais bon, on va dire, pour les besoins de la cause, pour les besoins de l'information, je vais me prêter à cet exercice-là. Donc, les colloques, évidemment, rangés, les gens sont assis, et écoutent des intervenants, puis bon, après, on s'en va, puis c'est terminé. Alors je me suis dit, bon, tant qu'à être dans cette position-là, passive, et aussi de mettre de l'avant la voix, un colloque, c'est la voix, hein? Il pourrait être absent, puis ce serait parfait, ou en tout cas, ça pourrait faire la même chose, parce qu'ils sont derrière une table, ils ne bougent pas, puis c'est amplifié. Tant qu'à être dans cette position-là... Allons-y. Et si vous me permettez, tout à l'heure en préparant, ok, si vous me permettez, vous allez voir, c'est assez intéressant. Oui, colloque. quand on a préparé le colloque, mise en scène, je vais vous lire le texte qui a servi à préparer le colloque, c'est-à-dire l'esprit du colloque. J'aimerais partager avec vous, bon, sautons cette phrase-là, la deuxième paragraphe. La mort n'est pas silence. Hein, c'est sérieux. Hein? Mais perte de la voix qui se trouve disséminée parmi les bruits de l'univers, aurait écrit Edgar Allan Poe. Le dispositif radio pose cette question de la dissémination de la voix dans l'univers et dont les ondes hertziennes ne cessent de se propager à l'infini. Hein? On dit que c'est à peu près la seule chose qui ne se perd pas. Hein? Quelqu'un dans l'univers pourrait un jour capter des émissions radio parce qu'elles voyagent comme ça à l'infini. Alors, le dispositif radio, ce qui implique que la voix devient le seul corps, on pourrait presque parler de spectre technologique possible à prendre en considération dans ce colloque. Alors, comment réduire le plus possible l'artifice, la physicalité du corps parlant, pour mettre de l'avant que la voix seule? N'y a-t-il pas une forme de voyeurisme mélancolique à vouloir observer le conférencier s'adresser à son public? La conférence est un dispositif qui place la parole au premier plan. Qu'avons-nous à faire de la chaise, de la table, du papier et du crayon? Le son émis depuis la cage thoracique, la gorge, la langue et les lèvres suffisent. C'est déjà trop. Si l'on pense au terme acousmatique, venu de Pythagore qui enseignait derrière un rideau, nos chers invités ne devraient-ils pas être cachés du public? Le public ne devrait-il pas être placé devant un mur du son qui lui permettrait d'entendre les diverses voix que nous avons réunies? Le public ne devrait-il pas être placé dans le fameux « écouter sans voir » de Pierre Schaeffer? Alors, je vous partage ça parce que ça, c'était un document qui a servi de discussion au groupe, parce que ce colloque-là a été organisé avec des gens, des étudiants. Donc, on a un peu réfléchi sur cette idée de colloque. Alors, voilà le colloque tel qu'il s'est présenté.
La photo a traduit bien, vous voyez, il y a des spectres, et on a le public. Et bien, ces spectres-là étaient derrière une espèce de tulle noire qui est utilisée justement pour les projections. On peut projeter sur ces tulles et avoir une image. De telle façon que nos chers conférenciers étaient dans une espèce de boîte fermée, mais que le public pouvait voir. Eux ne voyaient absolument rien d'où ils étaient placés. Et ils étaient placés vraiment dans une situation de poste, d'émission de radio. C'est-à-dire que on voit ici. C'était dans le noir. Alors, c'est ça. On ne voit plus cette espèce de tulle. Et on la voit encore ici. Et l'autre particularité, en tout cas l'autre originalité du colloque, était qu'on demandait aux conférenciers, on avait invité différentes personnes, de l'étranger, des États-Unis, de l'Europe, à intervenir sur cette question-là des archives sonores et de la voix radio. Donc, il y a eu toutes sortes d'interventions avec toutes sortes de points de vue et chacun des conférenciers était couplé, on demandait aux conférenciers de travailler avec un artiste sonore, un artiste qui fait des œuvres sonores. Et les œuvres sonores, les artistes qui faisaient des œuvres sonores, avait la contrainte de travailler avec les archives d'Arfolo. Il devait partir de ça. Il pouvait le transformer et faire toutes sortes de types d'interventions. Donc, on a notre animateur, ici de dos, on a deux conférenciers, Sandine Bagwati, qui est composé. compositeur, puis on a une compositrice qui intervenait en direct pendant l'intervention du conférencier. Donc, il y avait toutes sortes de propositions. Il y avait des artistes qui intervenaient en direct. Ici, Sophie Castonguay, puis... bon, je viens d'oublier son nom. Elles avaient enregistré leur conférence. C'est-à-dire qu'ils s'étaient rencontrés, elle avait préparé sa conférence et elle était enregistrée. Et lors de la présentation, elle écoutait comme le public leur propre proposition. Évidemment, bon, il y avait eu un montage entre l'œuvre sonore et la proposition.
Oui, donc c'était ce type de proposition qui alliait les archives sonores, alliait la proposition théorique, ou entre la proposition livrée par un conférencier, et un dispositif qui impliquait une émission de radio. Une émission de radio, c'est-à-dire que dans un studio... Si vous avez déjà fait de la radio, hein, c'est vraiment un lieu extraordinaire. Il y a ce lieu fermé. On a nos casques d'écoute, on entend la voix. Et on a, sûrement quelques-uns d'entre vous avaient déjà fait des émissions radio, hein, on a cette conscience d'être écouté. C'est assez particulier. Hein? Pourtant, c'est fermé. Sur le plan acoustique, hein, tout est étouffé. Mais il y a cette idée qu'il y a quelqu'un qui nous écoute. Et ça, c'est assez magnifique comme situation. Et je pense que les différents conférenciers étaient un peu dans cette disponibilité-là d'écoute très différente de la disposition d'écoute du colloque habituel, alignement de conférenciers, où les gens se lance des flèches indirectement. Voilà. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Une dernière chose. On aurait voulu qu'elle soit diffusée. Il y avait une émission. Une station de radio communautaire de l'Université McGill qui était très intéressée par la diffusion de notre émission, mais vous savez, c'est toujours des questions d'horaire et des questions de programme. Notre colloque arrivait, il y avait déjà tout un programme. Par contre, on en a diffusé des extraits en différé plus tard. Voilà. Question?
Et le tube, du coup, ça faisait une grande image et ça l'a... Pourquoi vous
n'avez
pas été jusqu'au bout, c'est-à-dire de...
Fermé?
Oui. Ah, peut-être que c'est un peu sec.
Bonne question, mais en même temps, il ne faut pas oublier que les gens qui étaient à l'intérieur, c'était une boîte noire, là. Ceux qui étaient assis à la table, pour eux, ils ne voyaient pas le public.
Ouais.
C'était une boîte noire. Il y avait cette particularité là, de ce tulle qui faisait que à l'extérieur, ben, on peut voir ici,
il y a du public, il y a le public qui assistait à l'émission de radio. Pour être...
Il n'y avait pas de questions publiques, questions venant du public. Encore là, ça fait partie de mes dadas. Je trouve souvent que dans les colloques, les gens qui interviennent, qui posent des questions... C'est tout le temps compliqué parce que c'est souvent pas trop intéressant, les questions qui viennent du public. Voilà, le fond de ma pensée.
Pourquoi avoir besoin d'un public en direct, sachant
ouais.
qu'ils ne peuvent pas intervenir sur place?
Ouais.
C'est
une bonne question, mais... Je pense que le dispositif était intéressant. Je pense que si on n'a jamais fait d'émission de radio, ça nous intrigue de voir comment se fait une émission de radio. Je pense que c'est peut-être ça.
C'est plus performatif qu'un colloque en soi.
Oui. Ouais.
Ouais, parce qu'il y a ce côté théâtral aussi qui est assez intéressant.
Ouais.
Et du coup, c'est peut-être plus qu'une émission de radio avec ce public du coup, qui n'existe pas, mais qui peut assister à,
ouais,
à cette scène. Et
ouais,
les spectres aussi, ça
ouais,
apporte, je pense, une autre incidence sur,
mm-hmm,
sur la situation.
Oui.
Je pense que ça continue à travailler cet espace intermédiaire qui est si cher, qu'on a vu entre peinture et musique, parce que finalement, c'est un colloque, mais ce n'est pas un colloque, c'est une émission de radio, mais ce n'est pas une émission de radio, puisque c'est effectivement assez théâtral aussi, à sa manière, c'est assez scénographié. Or, on est dans cet espace.
C'est vrai.
Et en même temps, un espace-centre et en même temps assez tautologique, assez conceptuel. Enfin, ceci est ce que ce n'est pas. Et en même temps, donc il y a l'aspect conceptuel et tautologique, et puis il y a l'espace intermédiaire. Mmh. Voilà, après, l'espace entre Benignien.
C'est assez intéressant au niveau de l'adresse, justement. Benyamin, quand il parle de radio, il dit que quand on vous parlez de la sensation qu'on a quand on fait de la radio,
oui,
d'être écouté.
Mm-hmm.
Et lui, il est un peu plus loin. Enfin, moi, j'avais lu des trucs où il expliquait quoi. L'adresse qu'on a en radio, on ne s'adresse pas à tous, on s'adresse à chacun.
Mm.
Parce qu'en fait, la plupart des gens écoutent la radio seul avec un rapport assez direct à la radio, qui est complètement différent d'une conférence où on s'adresse à une multitude de gens.
Exact.
Et je trouve que votre dispositif, il est intéressant, comme tu disais, sur cette frontière-là, sur cette double adresse radiophonique, peut-être à chacun, et en même temps avec un public en direct, donc à tous. Et je trouve qu'effectivement, cette frontière, et ça doit mettre aussi le conférencier, ou en tout cas la personne qui est en train de l'orateur, dans un entre-deux assez intéressant de cette adresse.
Exact. Cette idée de que la voix est un corps, hein, c'est... étrangement, hein, en mettant un accent sur la voix, c'est-à-dire que quand on porte un casque d'écoute puis qu'on, dans une émission de radio, il y a toute la question de la présence, il y a toute la question de, je dirais, du corps qui est révélé. Puis pourtant, on ne le voit pas, puis pourtant, son corps est absent. Donc ça, c'est des choses que je trouve importantes, puis que l'expérience de ce colloque-là, en tout cas, a confirmé. Et quand je pense à toutes les personnes qui ont participé au colloque, ils étaient emballés, ils étaient vraiment surpris, parce qu'il y en a plusieurs qui étaient un peu hésitants. ça remet un peu en question un peu le façon traditionnelle, mais là, tout le monde a par contre joué le jeu, travaillé avec un artiste d'art sonore ou de musique, puis a pu faire l'expérience, en tout cas, de la voix. La voix radio. Ben, ce que j'appelle la voix radio. Mais au fond, c'est la voix. Voilà.
Merci. Je trouve ça très drôle que soit des gens sérieux, entre guillemets, qui se mettent à jouer des codes, et en plus de plusieurs codes, parce qu'on est sur un plateau qui serait plutôt un plateau de radio d'échange, mais dans le dispositif, plutôt lors de la fiction radiophonique en direct, ou dans les conditions de direct, et puis du théâtre, avec ce quatrième mur où le public un spectateur n'a plus le droit d'intervenir. Ça, et le tout avec une parole universitaire où si vous êtes si vous avez une pensée ou des publications trop vulgarisantes, vous pouvez être pénalisé pour ça. Mm-hmm. C'est vraiment ce jeu un petit peu dangereux, mm-hmm. qui est assez, mm-hmm. assez charmant. Mm-hmm.
Je ne sais pas si... Bon, quand on regarde, quand on a des images de radio, hein, d'émissions radio, je ne sais pas si vous avez cette même réaction-là, quand on voit des personnes en train de, livrer, un topo, et de découvrir qu'ils ont un texte, je ne sais pas si vous avez cette réaction-là, de l'avoir déjà entendu, puis pourtant... Tout est bien construit, mais jamais j'aurais imaginé qu'il y avait un texte, je crois. Et quand je les vois, quand je vois l'image, on a filmé l'émission radio, elle a un texte. Et là, je reviens avec la question de la voix. C'est que, on n'a pas d'image, on a un, et parce que la voix est au premier plan, et qu'elle... dit son texte, donc elle le dit avec passion ou avec... elle incarne ce qu'elle a à dire et ce n'est plus un texte lu. Pourtant, elle lit bien un texte. Ce que je veux dire, c'est que je reviens avec ma situation de conférencier, il y avait bien des textes à lire. Bon, il y avait toutes sortes de propositions. Hein. Il y avait des propositions un peu plus savantes, des propositions un peu plus... narrative, ou... mais peu importe. Je crois que c'est une chose que tout le monde a remarqué. Même, je me souviens d'un professeur chez nous, il dit, je ne pourrais plus enseigner comme avant. Mais le fait de mettre au premier plan la voix, puis même si ça passait par la lecture d'un texte, ça change complètement. C'est ça. Donc, si ça change, la voix devient corps. Et oui, c'est vrai, tu ne peux plus lire comme avant. En tout cas, pour ce qui est d'un professeur qui doit livrer un...
Je ne sais pas si c'est fréquent au Québec, mais là, depuis quelques années, la tendance à filmer les émissions de radio augmente. Et c'est... moi, il y a une sorte de forme de trahison, en fait, à faire ça. Mmh. Et en plus, il y a vraiment des angles qui sont de l'ordre des caméras de surveillance. Oui. Enfin, qui sont, c'est pas fait pour être filmé,
oui.
Mais on donne quand même ça à l'auditeur,
enfin, oui.
Qui est bien spectateur de ça, et on voit le journaliste qui fait la matinale à 6h du mat, il a pas forcément... on ne se sent pas très en forme, etc. Il y a pas de maquillage,
oui.
Mais on montre cette image qui... Enfin, je me pose la question de à quoi elle sert, et en plus... On perd toute l'imagination ou tout l'imaginaire qu'on peut se faire autour de ça. Et j'espère que ça va s'arrêter là, que ça ne va pas aller plus loin, parce que je suis content de ne pas connaître le corps de certaines voix.
Oui. Puis...
C'est d'être un peu pessimiste, mais je pense justement que ça va être, que ça va être pire. Parce que maintenant, on voit... pareil, je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais je sais que sur les émissions françaises, ça se fait de plus en plus maintenant. Déjà, le fait de filmer, je pense que c'est aussi pour pouvoir réécouter ce qui s'est passé. C'est plus
attractif
de voir par la vidéo vraiment ce qui s'est passé.
Mm.
Et maintenant, il y a des concerts qui se font directement sur la radio, des sortes de petits shows, justement pour donner aussi aux spectateurs l'envie de revoir ce qui s'est passé au moment où il a chanté. Donc, comment ça s'est passé, ne serait-ce que dans l'espace. Mais c'est vrai qu'il y a un côté aussi intéressant de revoir visuellement comment ça s'est passé, mais ça perd aussi du coup un petit peu de son charme.
Ça banalise. On va vers une banalisation, ça, je suis d'accord. Hein.
C'est un peu comme voir quelqu'un qui... Une femme qui ferait du téléphone rose et de la voir en train de...
Ce qui est pas mal, moi, je trouve, enfin, ce que j'aime bien par exemple, c'est que au niveau un peu société du spectacle et tout, c'est les seuls endroits où tu vois les politiques ou les gens ou les animateurs et tout, qui justement ont la tête dans le cul, sont tous mal coiffés, pas forcément bien habillés, sont, et du coup, tu as un truc un peu, c'est encore une image qui n'est pas maîtrisée, quoi. Alors après, moi, je sais pas, peut-être que sur les grosses radios, sur Europe 1, machin, la vidéo est présente presque dans toutes les émissions. Mais quand je suis à Bourges, j'écoute la radio sur Internet, d'habitude j'ai une radio, et du coup, c'est vrai qu'il y a cette vidéo, là, ça fait 2-3 jours qu'en mettant la radio, je regarde, je me dis, putain, j'ai jamais vu ces images avant, mais c'est une image qui n'est pas maîtrisée. Quoi, et je trouve que c'est un côté rassurant, quoi, c'est pas la téloge. Quoi, c'est,
ouais.
Disons que là on ouvre un immense champ. Mais c'est vrai que la radio, c'est assez complexe, en fait, parce que je crois qu'il y a plusieurs radios. Bon, c'est plus difficile à dire avec la télévision, parce que c'est une telle arme de telle force médiatique et un tel coût aussi que c'est devenu quand même très relativement homogène, par le bas, mais c'est devenu relativement homogène. Le concept radiophonique est complexe parce qu'il y a effectivement la radio est un média. Et à ce titre, donc, elle pose des questions de journalisme, de médias, de société du spectacle, de politique. Et la radio dont on parle, cette radio filmée qui intervient de manière assez cheap sur Internet, c'est bon, avec une, parce que la radio perd effectivement tout son charme, son énigme, son mystère, mais l'image aussi, en fait, je veux dire, il n'y a rien à sauver non plus dans l'image que l'on voit, enfin, l'image est tout aussi dévaluée. Donc ça concerne un pan de la radio, je crois, qui est son caractère médiatique. Et puis après, il y a autre chose dans la radio, et c'est ce qui nous fait que vous êtes ici, je pense, enfin, tous, et que nous sommes là, c'est qu'il y a aussi dans la radio une part effectivement de création avec des moyens qui peuvent être très beaucoup plus modestes d'ailleurs que pour l'image. Il y a une part de poésie, d'absence, parce que ce qui est fondamental quand même, c'est cette absence de l'image en réalité. Et toute cette part, elle continue à être traduite dans des émissions qui résistent, enfin qui toutes les émissions de création radiophonique, elles ne peuvent pas passer à l'image parce que c'est écouté où que ce soit, que ce soit sur France Culture, que ce soit aussi sur l'état de radio libre, associatif, qui font des programmes en mélangeant des musiques, enfin, bref, vous connaissez ça aussi bien que moi. Et toute cette partie-là, c'est autre chose dans la radio. J'ai presque envie de dire que un peu rapide là-dessus, mais la radio, elle est média, mais elle est aussi un médium intéresse l'art contemporain, il y a beaucoup de questions de radio dans l'art contemporain, elle est aussi médiumnique, hein, c'est pour ça qu'il y a des spectres. Il y a plusieurs radios, c'est propre, je pense, à ce média qui est la radio. J'ai du mal à trouver une autre pluralité, une autre polysémie dans la télévision, c'est pas possible, je veux dire, c'est un tel coup que la télévision aurait pu, c'est le grand discours de Godard, je veux dire, la télévision aurait pu être un objet d'expérimentation. Dans les années 70, ils ont pensé cette question. Le cinéma, une télévision totalement alternative. Godard disait, le métier dont je suis le plus proche en tant que cinéaste, c'est le journalisme. Il se posait cette question, qui était le cinéma comme musée du réel, et donc la télévision aurait dû poser cette question. C'était pas plus, parce que ça a de suite été politique, ça a de suite été de l'argent, ça a de suite été des groupes. Et la radio, elle a une spécificité, et je crois que ça tient à son économie aussi, finalement, fait que bon, voilà, c'est, ça peut se faire avec le bout de ficelle, et elle est très très polysémique. C'est un peu long, mais ça c'est un sujet en soi, mais d'une certaine manière. Donc pour résumer, je trouve aussi qu'il y a une, c'est terrible cette radio filmée, parce que en plus atrocement filmée, quoi, c'est aussi une insulte pour l'image, quoi. Mais ceci dit, c'est un pan, ça concerne un pan de la radio et l'autre. En revanche, je pense que la radio fait partie de ces médiums qui précisément peuvent s'adapter à une économie de la survie artistique. Parce que justement, ils peuvent être cheap et être extraordinairement créatifs.
C'est vrai, par rapport à la télé, au tout début, il y a eu, je reviens avec mes télé communautaires, là, puis mes radios communautaires, Mais au début, il y avait de la télé communautaire chez nous. Il y a eu beaucoup d'expériences de ce côté-là. Et ensuite, tout ça est tombé. Mais les radios sont existantes. Nous, dans toutes les universités, il y a une radio étudiante qui, avec une diffusion limitée, mais quand même une radio. Et les radios communautaires. Les radios communautaires sont des lieux vraiment de... qui sont expérimentales. Tout le monde peut se présenter. Vous dites, bon, j'aimerais faire une émission sur... c'est possible. Et pas la télé. Et ça existe encore. Par contre, la télé d'État, chez nous, c'est catastrophique. Mais bon, ça, c'est autre chose. oui, la radio. Oui, c'est un lieu, c'est vrai. Ah oui, j'oubliais. Mon autre idée, c'est qu'il y a des projets d'artistes. Hein? Il y a des projets d'artistes qui ont fait de la diffusion dans un circuit très réduit, c'est-à-dire dans son auto. Je ne me souviens plus du nom d'un artiste canadien qui a fait ce projet-là. Donc, il diffusait, je ne sais plus à combien de mètres, autour de son auto. Donc, il faisait des émissions comme ça, puis il se déplaçait. Évidemment, c'était entièrement illégal. Mais il a fait ce projet-là qui se déplaçait dans le Canada en faisant des émissions à partir de son auto. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de liberté avec ce médium-là. Ça va pour la radio? Est-ce qu'on va avec le projet d'atelier? ça m'intéresse beaucoup, ça. Bon, la radio comme médium pauvre, comme médium qui échappe un peu, ça échappe pas aux lois du marché, mais en tout cas qui, des fois, peut tenter d'échapper. Alors, je me suis dit, je me suis intéressé au son. Vous avez vu les tableaux qui travaillent avec la musique, mais avant ça, j'avais travaillé beaucoup avec les enregistrements sonores, les enregistrements de lieux et tout ça. Puis mes tableaux reprenaient une section, deux secondes d'un montage Pro Tools. Donc, montage Pro Tools, donc vous avez des couches, hein, vous avez des couches comme ça. Puis bon, vous voyez, ça reprenait un peu une configuration géométrique. Et ça me permettait de faire des tableaux. Ça, c'est avant les tableaux feldmaniens, on va dire. Et je m'intéressais à l'enregistrement. J'enregistrais. Et je me suis dit, à un moment donné, tiens, l'électricité n'existe pas. Elle n'a pas été inventée. Et il y a quelqu'un, tout d'un coup, qui dit, mais il faut enregistrer un écologiste sonore, rien. et tout s'y inventer. Il dit, il faut enregistrer absolument. Il faut enregistrer. Mais comment on va s'y prendre? Comment on va faire pour enregistrer? On n'a pas d'autre technologie que du papier puis un crayon. Alors, on va noter ce qu'on entend. Mais on va être un peu plus sérieux que juste noter d'une façon, arbitraire ce qu'on entend. Alors, on va être très, très rigoureux. Alors, on va se placer à un endroit, donc on veut enregistrer une chose à un endroit, donc on s'installe et on inscrit dans le coin supérieur gauche, non droit dans ce cas-ci, l'heure exacte du début de l'enregistrement. Puis à gauche, bon, en tout cas, je prends ça comme un exemple là, d'enregistrement que j'ai fait sans technologie. À gauche, j'inscrivais la date et à droite, j'inscrivais le début de l'enregistrement. Et la fin de l'enregistrement s'inscrit en bas. Et à gauche, j'inscrivais l'endroit. Bon, c'est une façon. Donc, il faut être rigoureux, il faut inscrire l'endroit où on est, la date et le moment du début d'enregistrement. Et on est un peu comme des moines copistes. C'est-à-dire qu'on enregistre, on note tout ce qu'on entend. Mais là, c'est impossible de tout noter parce que ça va trop vite. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais noter ce qui se dégage, ce qui s'entend et ce qui se dégage de la grande masse sonore qui a un flux continu. Voilà la manière de travailler. je prends un point de départ. La ligne constitue ce flux qui est indistinct. Et à un moment donné, il y a un son qui se dégage. Je le nomme. Dans ce cas-ci, c'était une moto. Alors, je continue. Ensuite, il y a un camion, il y a du vent, etc., etc., etc. Donc, l'exercice semble banal, semble peut-être simple, mais il implique énormément de questions. Je ne sais pas si je devrais aborder ces questions-là, mais plutôt proposer de le faire et ensuite de voir qu'est-ce que vous avez rencontré comme problème. En nommer quelques-uns, comme nommer. Alors, comment on fait pour nommer? Hein? C'est pas simple. Hein? Ensuite, la fidélité de l'enregistrement. Parce que on parle de, il faut être fidèle, il faut être respecter la durée. Si ça commence à 17h30, puis ça se termine à 17h38, eh bien, il faut que ce soit l'enregistrement qu'il y a dans cette durée de temps-là. Qu'est-ce qu'on fait avec je suis en train d'écrire moto, puis j'entends, je ne sais pas trop quoi, un autre un cri. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le mentionne pas, je ne l'écris pas, parce que personne ne va le savoir. Je vous laisse avec le problème, vous allez voir. Etc., etc. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ça nous oblige, en tout cas, à avoir un type d'écoute particulière. Une écoute qui implique une durée de temps, puis qui implique aussi de nommer ce qu'on entend. Voilà.
Le trait a une durée, en fait.
Comment?
Le trait a une durée. Le trait noir.
Le trait noir. C'est-à-dire que de...
C'est continu, on entend une voix.
Oui, oui, c'est ça, c'est parce que bon, on ne peut pas tout noter, c'est absolument impossible. C'est impossible. C'est la ligne de temps, on pourrait dire, c'est la ligne continue du temps.
Et la durée variable, où elle fait 30 secondes par rapport de page ou...
Ça, je vous laisse trouver... manière de.
Enfin, est-ce que donc, on est dans un monde où il n'y a pas d'électricité?
Oui, oui.
Le but étant
de conserver du son. Il faut conserver parce que plus tard, ces sons-là n'existeront pas, ou en tout cas, peu importe. En 2015, en décembre 2015, bon, bien. Déjà, l'année prochaine, les sons vont être modifiés, que ce soit pour toutes sortes de raisons. Et là, nous, on a un souci de vouloir conserver les sons de, du 17 décembre 2015. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est que ça serait bien, c'est pour ça que je voulais qu'on puisse avoir des outils pour pouvoir enregistrer, c'est-à-dire d'enregistrer aussi en même temps et de faire le comparatif aussi. C'est-à-dire que...
En fait, aussi l'un des intérêts, si on est plusieurs dans le même espace, c'est de voir, si je puis dire, si on entend tous la même chose, parce qu'il y a quand même aussi quelque chose de très immatériel dans la perception sonore. Mm-hmm. On n'entend probablement pas tous la même chose dans une pièce ou dans un lieu. Ça, c'est intéressant aussi. C'est
exact.
L'aspect collectivité, finalement. Est-ce qu'on entend exact. Tous la même chose?
Exact. On porte attention plus sur telle chose. Sans ou telle chose.
Est-ce que pour autant, on a envie de la dénommer? C'est aussi
vrai. Et pour ce qui est de nommer, moi, je pense que il faut, il n'y a pas de consigne. Je pense qu'il faut le nommer comme vous pensez qu'il devrait se nommer dans toutes les possibilités du langage. Vous voyez?
Les règles, c'est juste de noter le début de l'enregistrement.
Un lieu extérieur, d'inscrire la date, le début de l'enregistrement en termes d'heures, de minutes, de secondes, de partir l'enregistrement, donc de noter.
On est en déplacement ou on reste fixe?
Fixe.
Ah, on est fixe,
oui. Ah, oui. Oui. Oui, c'est trop difficile, là. C'est trop difficile de le faire en déplacement, puis... Moi, c'est simple, mais on peut discuter, là. On peut modifier. Mais moi, c'est tout simplement pour une simplicité d'exécution. C'est que qu'est-ce que je fais avec mon carton? Je marche, puis c'est un peu difficile pour moi d'inscrire quelque chose quand je marche. Puis je risque de m'arrêter pour écrire, puis continuer de marcher. Mais sinon... Oui, ben oui, il faut. Oui, ben je pense qu'avec le.
Ouais, mais il n'y a pas d'électricité, mec. On est dans un.
Non. mais il y a des extraterrestres.
Qui nous ont inventé le chrono.
Oui. Juste les chronos, puis aussi l'enregistrement.
Oui, avant l'électricité.
Oui. Oui.
Comme l'enregistrement. Quel serait le lieu à Bourges où on pourrait, si on doit tous être.
Il faut que ça soit un lieu qui soit un peu bruyant. Moi, quand on est arrivé de la gare, moi, je ne sais pas, moi j'ai vu, il y a un lieu, une espèce de carrefour, là, il y a un grand édifice post-moderne. Oui. Oui, avec les échafaudages. Oui, c'est ça. Qui me semblait intéressant parce qu'il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup d'événements sonores, en tout cas dans ce lieu-là. Et la musique de Noël, ouais.
Et j'ai rencontré un élève qui fait un projet sonore qui nous a dit qu'à plus de 19 km/h, quand le vent souffle à plus de 19 km/h là-bas, ça crée comme un orgue les tuyaux de l'échafaudage.
Ouais.
C'est un orgue que j'ai
montré. Et font un truc.
Mais.
Alors, je sais pas, on a un peu comment de ça.
Ah ouais.
Ah ouais.
Non, c'est un élève qui fait. Mm-hmm.
Oui, oui. Oui.
Avec
oui.
Mmh.
Oui. Mais ces deux exemples-là, je les trouve intéressants. Imaginez-vous, comment allez-vous écrire ce son continu? Comment vous allez trouver le nom? D'une part, puis l'autre exemple, moi je trouvais assez intéressant, les chants de Noël. Comment? Ah oui, mais le titre, c'est pas le son, le titre, non, ça arrive. Non, mais vous voyez, le truc, c'est vraiment complet, vraiment
comme
pas simple.
Sur le travail, il n'y a que du causal.
Oui.
On ne peut pas définir les sons, là. On ne peut pas beaucoup les qualifier. C'est une voix, on ne sait pas si elle est aiguë, si c'est masculine.
Non.
Oui, mais par contre, vous avez su identifier tous les sons que vous avez notés.
Hmm.
Oui.
Alors, du moins, vous croyez que c'est une camionnette qui passe.
Oui.
Mais...
Ah non, c'était une camionnette.
Ah, vous
non.
Mais vous êtes sûr.
Oui. Il y a ça aussi. Il y a aussi, ça fait appel aussi à cette mémoire des sons. On connaît, on est capable de reconnaître.
Donc, c'est très objectif. C'est-à-dire que si on entend les échafaudages qui font un bruit de drone, on est obligé de mettre échafaudage. On ne peut pas mettre drone.
Ah non, mais là, c'est là que je n'irai pas là. C'est-à-dire que laissons la liberté de l'interprétation parce que c'est là que ça peut être intéressant. C'est-à-dire que toute la question, en tout cas, moi, tient à ça. Je veux dire, bon, l'espèce de drone, l'espèce de bruit continu, moi, je ne sais pas comment je ferais pour le nommer. Je le dis aussi en me plaçant dans votre position, je serais vraiment embêté. Puis un chant de Noël, je serais vraiment... peut-être clochette, s'il y a des clochettes ou voix chantées, je ne sais pas, je serais embêté. Mais je pense, ou quelqu'un d'autre pourrait écrire « Je suis en Noël ». Ou, mais j'ose pas le dire, parce que j'ai, ou peut-être même des signes graphiques, peut-être. Je pense que c'est ça, il faut laisser, je pense que la possibilité de traduction, on reviendra à cette idée-là, libre. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir après comment vous avez fait votre enregistrement. Est-ce qu'on peut le lire, cet enregistrement-là? Est-ce qu'on peut l'entendre?
Ça, vous ne l'avez pas fait en direct?
Oui, oui.
Si?
Oui. Je l'ai fait à plusieurs... Bon, je l'ai fait à l'extérieur. Il y a plusieurs endroits que j'ai fait dans le centre-ville. Ça, c'est un lieu un peu plus tranquille. Donc, j'ai testé plusieurs lieux. J'ai fait beaucoup d'enregistrements, autrement dit. Mais c'est ma manière. Je ne veux pas que vous la repreniez. Il faut que vous la fassiez à votre manière.